Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, les Orechem Tovim Mishanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude sur le Sidour de Tfila. Nous sommes à la deuxième, à la bénédiction qui suit le Kriyat Shema. Nous sommes à Emet Veyatsiv. Alors là, ce paragraphe-là, cette partie-là de la Tfila est composée de deux paragraphes. Le début de ce paragraphe, il comporte 15 mots avec 15 vav, qui commencent tous avec vav. Ve'yativ, ve'nachon, ve'kayam, ve'yachar, ve'ne'eman, ve'ahuv, ve'haviv, ve'nehmad, ve'na'im, ve'nora, ve'adir, umtukan, umkubal, ve'tov, ve'yafé, hadava. Donc il y a ici 15 vav, qui font allusion aux deux premières lettres du nom de Dieu, Yod Ke. Mais le Vav lui-même, c'est, donc il y a Yod Ke, et le Vav lui-même, le dernier Vav, Veyafé Hadava. Le He, il faut s'arrêter à, il faut lier les 15 mots à, au 16e qui est Hadava. En prononçant l'article He, qui fait référence à la dernière lettre du nom de Dieu. Donc, de sorte que nous avons lié ici, les quinze mots correspondent à Yod-Ké, le Vav correspond au Vav, qui est lié au He, au dernier de Hadava. Et nous avons reformé le nom de Dieu dans son intégralité. De plus, il est à souligner qu'il y a ici 72 lettres jusqu'à Hadava, jusqu'au He. 72 lettres qui correspondent au nom de Dieu, Yod, Ke, Vav, Ke. Yod s'écrit Yod, Vav, Dalet, ça a valeur numérique de 20. Le He s'écrit He, Yod, c'est 15, 35. Vav s'écrit Vav, Yod, Vav, ça a valeur numérique de 22. Et He, He, Yod, ça fait 15. Donc nous avons 72. C'est le nom de Dieu du niveau le plus haut de l'expression de sa puissance. Le Seder Olam indique qu'il convient de bien prononcer chaque mot distinctement afin que les 15 vaves de cette louange qui est puissante et redoutable, puissent se reformer. Ezra a souffert. C'est lui qui a appelé les communautés dispersées à le rejoindre en Eretz Israël pour le retour et la reconstruction du temple. Alors certaines refusèrent pour le motif que le deuxième temple serait lui aussi détruit, pour qu'on ne les accuse pas de manquer de foi, qui manque de Emouna. Ils envoyèrent le texte de cette louange à Ezra. Il y est fait mention et allusion des trois premières délivrances ainsi que de la rédemption finale. Il y a une autre version qui est rapportée, que quand les sages instituèrent les 100 bénédictions quotidiennes, ils demandèrent leur accord aux communautés en exil. Ces dernières envoyèrent alors ce texte comprenant l'allusion de la manière suivante. De Emet à Emet, il y a 100 lettres. En écrivant les mots Bekayam, Umtukan, Umkubal, il y a trois mots avec des vaves. Les 16 louanges que nous disons parce qu'on dit Emet, c'est vrai, on va dire le mot Emet, il est rapporté 8 fois ici dans ce Emet Viatsiv. En tout, il y a 8 fois le mot Emet. 4 dans la première partie et 4 dans Ezra Tavotenu, dans la deuxième partie. Donc, ces huit mots-là, à quoi ces huit émets, à quoi correspondent-ils? Quel est le sens de ces mots? Donc nous avons déjà dit que la Amida, c'est le summum. La Tfila étant une ascension en 4 étapes, en fait en 3 étapes, pour arriver à la quatrième, au sommet. Le sommet, c'est la fusion totale avec Akadosh Baruch Hu dans le monde de l'émanation. À la fin du Kriyat Shema, nous sommes encore dans le monde de la Beria. Et nous avons remarqué qu'il n'y a pas de Kaddish pour passer du monde, du troisième monde au quatrième monde. Alors le Emet Veyativ et les huit Emet, les huit fois qui a marqué Emet, sans en fait ces étapes, ces marches que nous gravissons pour arriver au sommet de l'extase qui est la Amida. Donc il convient de les prononcer, ces mots émet, avec entrain et ferveur, parce qu'à chaque fois que nous prononçons le mot émet, les 8 fois, nous montons d'un étage. Nous passons du monde de la Bria au monde. C'est un tremplin qui nous permet de pénétrer encore plus profondément vers le monde, vers l'extase, la salle du trône où se trouve le Tout-Puissant Baruch Hu Yitbarach Shemo. Donc il convient de les prononcer avec ferveur, en train, en chantant, parce que c'est là qu'on doit exprimer cette élévation spirituelle qui se traduit par la vérité absolue. Donc c'est quelque chose que l'on doit traduire dans les émotions. Alors revenons aux 16 louanges qui introduisent ce passage. Donc nous disons, et ces 16 louanges correspondent en fait aux 16 versets qui composent les 2 premiers paragraphes du schéma. Nous avons dit qu'il y a 5 versets, 5 et 9, plus les 2 versets du schéma Israël de Baruch Shem Kevod Machuto Le'olam Va'ed. Chacune de ces louanges se rapporte à ces choses-là. Hadava, cette chose-là. De quelle chose il s'agit? Les 2 paragraphes du schéma, dans lesquels sont mentionnées l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, la révélation de la Torah et la prophétie de Moshe. Ce sont les 3 principes fondamentaux de la foi qui ont été établis de manière absolue lors du don de la Torah. Alors, Emet, c'est Shema Israël. Ve'yatziv, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Ve'nachon, véritable. Ve'yatziv, c'est-à-dire c'est Emet, c'est vrai. Ve'yatziv, c'est établi, constant. Nachon, c'est véritable. Ça veut dire Ve'afta et Hashem Elohecha Bechol Levavcha. Ve'kayam, c'est durable. Ve'ayu Adevarim Ha'ele. Que là, il y a parole de Dieu le subsiste à jamais. Veyachar, c'est droit. Il est dit, tu enseigneras à tes enfants. Veshinantam levanecha. Car la parole de Dieu est droite. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Quelque chose qui est vrai, qui est bien. Veneeman, il est loyal et fidèle. Donc c'est quoi la fidélité? Ukshartam leot aliadecha. Tu trouveras son cœur fidèle à ton égard. Veahouv, il est aimé. Si tu l'écriras sur les poteaux de ta maison, c'est la mitzvah de Mezouza. Parce qu'il y a marqué à Kadosh Baruch Hu, j'aime résider dans ta demeure. Mais Haviv, c'est chéri. Si tu aimes, tu es chéri, entendre les paroles de la Torah que tu connais, tu entendras alors de nouvelles paroles. Mais Nehmad, c'est charmant. Ce sont toutes les bénédictions. Mais Naïm, donc c'est là, même les animaux, ils auront de quoi manger. Vénora, redoutable. Alors sur ça, il y a marqué, Vichambrou lachem, pein nifte levafrem, prenez garde à ne pas vous détourner de la Torah. Véadir, il est formidable. Alors sur ça, c'est la puissance de Dieu qui risque de se manifester si on ne fait pas correctement la Torah. Que son nom puissant et glorieux. Il est glorieux quand il sanctionne ceux qui ont fauté. Et c'est ça ce qui est marqué, Vehara Afashem Bachem. Umtukan, il est institué, établi. Alors il est marqué, Vesamtam, et allez, Vafrem, vous les mettrez, ces paroles-là, sur votre cœur. Alors il pesa, et scruta, et composa de nombreuses sentences, comme il est dit dans Kohelet. Umkubal, il est admis. Alors il est, Vilimatem et Benechem, nous avons accepté la Torah sur nous, et sur nos descendants. Vetov, il est bon, bien. Alors ça à nouveau, tu écriras sur les poteaux de ta maison. La mezouza éloigne la mort. Zaz mavet, il y a marqué. Le verset dit, je vous donne la vie et le bien. Viafé, il est beau. Le ma'an yirbo yemechem ala adama. Le tov, le yafé, c'est quelque chose qui va se perpétuer. Alors, que notre héritage est splendide, la ville qui est appelée le centre du monde et la beauté, les délices de la terre. C'est ça, c'est la, c'est quelque chose, se délecter de la rouhane, de la spiritualité. Alors, ça veut dire émettre. Cela signifie que la parole est une vérité absolue qui ne peut être contredite. Elle a été établie et révélée devant tout un peuple rassemblé. La Torah n'a pas été donnée en cachette avec, à quelqu'un, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a raconté. Et devant de Bilifne Kaal Veeda, devant 600 000 adultes et peut-être que 4-5 millions de personnes. Le mot Emet s'écrit Aleph, c'est la première lettre, Tav, c'est la dernière lettre, et le même au milieu, c'est la lettre du milieu, c'est l'établi, la vérité est stable, elle a une assise qui est parfaite. Le mot Sheker, le Shin, il a une pointe à la fin, en bas, le Kouf, il a un pied, et le Resh, il a un pied. Donc le mensonge, il tient pas bien, il tient pas, il n'a pas d'assise. Si j'enlève le Aleph de Emet, il reste Met. Alors le Aleph, c'est Aloufo chez l'Olam. Si Akash Borou, il retire son énergie, sa présence, alors le monde, il disparaît. Donc la vérité, c'est une vérité absolue, totale, sans partage. Il n'y a rien qui peut venir s'associer à cette vérité-là. Alors après, on dit, elle est constante, fixe, et ne peut être contestée. Comme dit Rambam, à la différence de toutes les autres croyances, quand Hachem a parlé au Bnei Israël, il ne l'a pas fait en cachette. Devant quelques personnes, ou un seul homme, mais devant une multitude. Puis Moshe rédigea la Torah. Il en a donné un exemplaire à chaque tribu. Il y a mentionné des miracles qu'il aura accomplis. Vous avez vu de vos yeux vous-même que je vous ai parlé du haut de la montagne et des cieux, etc. C'est-à-dire que quand on lit, si c'est pas vrai, alors il n'aurait pas accepté le livre. On voit que s'ils ont accepté, c'est ce qui est écrit est vrai. Et bien, c'est incontestable. C'est-à-dire que Moshe, il écrit des choses qui n'ont pas existé. Alors comment les gens ont accepté cette Torah-là? C'est la preuve que rapporte Maïmonide pour dire que la Torah, elle est vérité. Elle est véritable. Le mot Nachon a le sens de direction et de forme. Ce sont les mitzvot. Malgré leur nombre, leur diversité, elles sont toutes liées entre elles les unes aux autres et mènent à un seul but. Les 248 mitzvot positives et 365 interdits ne sont pas des lois décrétées par hasard ou pour uniquement établir l'autorité de Dieu. Elles sont là aussi la source de vie qui contient un savoir, une intelligence insondable, durable et immuable. La Torah et les Mitzvot ne changeront jamais. Elles sont de dimension divine. On ne peut concevoir le Créateur, Dieu qui change d'avis tous les 500 ans. Ça marche pas. Elle est droite. Toutes les mitzvot et les paroles de la Torah ne sont que droiture. Pour ceux qui recherchent la vérité avec honnêteté, et tant que l'intelligence n'a pas été souillée, alors il n'y a pas de corruption. La vérité, elle est absolue, comme il est dit dans le verset, que la vérité, quand elle est dite, tout le monde sait que c'est la vérité. Elle est loyale et fidèle. Toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple, ainsi que toutes les récompenses, et que tous les arrangements, les engagements qu'il a pris, il les réalise. Telle est la promesse faite. La Torah ne sera pas oubliée de ta descendance. Malgré les exils, les souffrances, les oppressions, les expulsions, les massacres, l'assimilation, etc., il y a aujourd'hui aussi des centaines, des milliers de personnes qui s'adonnent à la Torah et qui accomplissent la Torah et les mitzvot. Elle est aimée. Ceux qui consacrent leur vie à l'étude au service de Dieu ne le font pas par obligation, mais par amour. C'est un choix. De nombreux étudiants dans les chibots auraient pu réussir, ils auraient pu faire des études, ils auraient pu faire des affaires, ils auraient pu obtenir des diplômes et qui leur auraient permis de gagner très bien leur vie. Ils ont choisi de sacrifier cela et de prendre autre chose, de se consacrer à l'étude en sacrifiant les biens de ce monde. Non pas par contrainte, mais par amour de la Torah. Elle est chérie et adorée. Ce terme est plus fort que l'adjectif aimé. À l'image de Hanania, Michel, Vaazaréa, qui ont choisi de donner leur vie pour sanctifier le nom de Dieu, alors qu'ils auraient pu se cacher. Le verset dit, Il t'a choisi pour lui être un peuple spécial, Am Segula, d'entre tous les peuples de la terre. Ankelos traduit, c'est quoi Amségoula? Un peuple spécial, il traduit, un peuple spécial, c'est Goula, singulier. C'est un peuple, Am Haviv, chéri de Dieu. C'est-à-dire, il a la Havivout. Elle est charmante et agréable, cette Torah. Elle est l'objet de notre convoitise. Plus que l'or et les pierres précieuses, et Karahim et Pininim. Son goût est agréable, on n'en est jamais rassasié. Elle est comparée à la douceur du miel. Elle est redoutable. Après avoir qualifié la Torah de aimée, chérie, convoitée, agréable, on vient nous dire que elle est redoutable. À la fin des lois concernant la profanation des objets consacrés, Rambam dit, il revient à chaque homme de méditer sur les lois de la Torah et de les comprendre profondément selon ses capacités intellectuelles. Toute chose à laquelle il ne trouvera pas de logique et de raison, il ne la considérera pas comme légère. Regarde combien les lois des profanations sont graves. Bien qu'il ne s'agisse que d'objets de pierre et de bois, dès qu'ils ont été consacrés par la parole, au nom du Seigneur, alors son nom est inscrit dans l'objet. Ils sont devenus saints. Celui qui en profiterait même par inadvertance, alors il a besoin d'apporter un sacrifice expiatoire. À plus forte raison pour toutes les mitzvot que Dieu il a décrété sur nous. C'est-à-dire quand on consacre un objet, c'est l'homme qui consacre. Et malgré tout, s'il l'utilise pour lui, il a profané. Alors ça c'est la force de la parole. Alors comprends que chacune des mitzvot qui est de la parole de Dieu, formulée par la parole de Dieu, contient une profondeur extrême. Il faut prendre garde de ne pas délaisser, de dédaigner ces mitzvot-là. Même si on n'en voit pas l'utilité, on ne les comprend pas. Ben c'est toi qui es petit, tu ne comprends pas. Mais la Torah, elle est d'une profondeur incommensurable. Elle est formidable et puissante. Chaque détail des mitzvot, chaque mot de la Torah ont à nos yeux une valeur et une importance incalculables. Ils exigent de notre part une attention particulière et continue. Ils sont comme une couronne royale composée d'un grand nombre de diamants de différentes grandeurs. Même les plus petits ont nécessité un travail minutieux, une attention particulière de la part de l'artisan et de l'orfèvre. Elle est instituée et définitive. Les lois et les règles que les hommes décrètent ont toujours besoin d'être aménagées, adaptées, réformées. Ils ont besoin... C'est comme ça. C'est pour un temps. Les idéaux inventés par les hommes aussi, ils n'ont qu'un temps. Mais la Torah, elle est éternelle. Elle est admise, acceptée, elle est bonne et belle. Admise, acceptée par ceux qui s'y consacrent. Et qualifiée de bon, ce qui fait progresser et évoluer l'homme, degré après degré. Belle, elle est harmonieuse, elle est l'harmonie de la création. On continue. Là, on répète le deuxième mot, émet. Donc il y a ici, émet. Deuxième émet, donc on a gravi encore ce que le Zohar appelle Shmona et Chalot. Ce sont les huit palais, ce sont les huit salles du palais qui s'ouvrent au fur et à mesure. Donc nous étions dans le monde de la Bria, nous allons pénétrer dans la salle du trône. Alors avant on est dans le vestibule de l'entrée du palais, mais il y a huit, il faut pénétrer, ouvrir huit salles et traverser ces huit salles pour atteindre le lieu où se trouve le trône de la puissance de la gloire. Donc à chaque fois, c'est quoi? C'est Emet. Emet. Eloé Olam Malkenu, le Dieu du monde, notre roi. Tsour Yaakov Magenishan, le rocher de Yaakov, le bouclier de notre salut. Bouclier et Tsour, c'est la citadelle en fait, c'est là où on se réfugie, le lieu d'où on peut se réfugier. C'est vrai que le Dieu du monde est notre roi. Emet Yaramakeno, c'est en rapport avec le premier paragraphe du schéma qui est la prise sur soi du joug divin. Bien qu'il soit, lui, le Dieu du monde, c'est-à-dire qu'il s'occupe de l'ensemble de la création et subvient à leurs besoins, c'est l'Ashgaha Klalit, il a une attention toute particulière pour Am Israël, c'est l'Ashgaha Pratit. Sur Yaakov, le rocher de Yaakov, tout Israël est appelé Yaakov, comme dit le verset, écoutez ceci, maison de Yaakov, qui est appelé, qui est vous et qui est appelé par le nom d'Israël. Comme dit le prophète Ishaïa. Le rocher, la puissance, la force de Yaakov. Le bouclier de notre salut, Magen Ishaïno. Il protège le salut, notre délivrance, malgré les accusateurs et les fautes. Et cela par le mérite de nos pères qui ont enraciné en nous. Le Abou d'Aram dit, il faut marquer ici un arrêt. C'est pour cette raison qu'il est dit le rocher de Yaakov et pas le rocher d'Israël, car ils sont au degré relatif de Yaakov qui est un degré relativement bas. Les Dor Vador ou Kayam, pour toutes les générations, il est éternel, son nom est éternel, son trône est établi, son règne et sa fidélité existent à jamais. Les générations sont des périodes de l'histoire du monde, la période messianique, puis celle du monde futur, puis celle de la résurrection. Tout ça, ce sont des périodes qui doivent se succéder à la fin des temps. Son nom est la direction de ce monde. Les changements, eux, ne sont pas en lui, en Hachem lui-même, mais sont de son fait. C'est les changements qui sont pas de lui-même. C'est les conséquences de l'action des hommes. Oukaya, le mot hou fait allusion aux trois lettres manquantes, celles du nom hé, vav, comme on a dit, tant qu'Amalek il existe, il manque le hé et le vav, ils sont coupés. Et le qui sait, il est marqué kiyad al-kes, ya, le qui sait, il lui manque le alef. C'est Ival et Moshavlo. Le verset dit, l'Éternel a préparé son trône dans les cieux. De même, il est dit, les cieux sont mon trône. Hashamayim kisi ve'aretz adom raglay. Le trône symbolise la direction naturelle de ce monde. Celle qui dépend des lois de la création qui sont immuables. Qui s'appliquent par le nom Elohim. Cependant, quand il le désire, Akadosh Baruch Hu applique une autre direction aux événements qui correspond au nom de Dieu Yudke Vavke, qui est appelé Anaga Anissit, la direction miraculeuse. Ces paroles sont vivantes. La Torah et les 613 vivantes ne sont pas juste des commandements à accomplir, elles sont réellement vivantes comme nous l'avons dit plus haut. Durable. Les paroles de la Torah ainsi que les Mitzvot s'inscrivent immédiatement dans l'espace éternel du Gan Eden. Quand on fait une mitzvah, tout de suite la mitzvah, elle est ailleurs. Comme il dit le Rama Mifano, que ce livre évoqué par nos sages, quand il y a marqué tout ce que tu fais, toutes tes actions sont inscrites dans le livre, il s'agit du Gan Eden, c'est ça le livre. La Torah et les Mitzvot sont une partie de l'éternité. La mitzvah dévoile à celui qui l'accomplit, le nom de Dieu Yotke Vavke, parce que le mot mitzvah, il s'écrit même tzadik, dans le hatbash, alors le même, il se transforme en yud, et le tzadik, il se transforme en he. Alors la mitzvah, c'est Yotke qui apparaît, et le Vavke, il existe déjà. Fidèle et gracieux, c'est jamais pour tous les mondes spirituels et le monde matériel, c'est ça, les Olamim. Donc c'est deux niveaux dans la conception du monde. Alors après on rajoute. Alors Venemanim udvara haim ke venemanim hamadim la adol Olamim ou Olamim. La hâte pour toujours les Olamim, deux mondes, Olamim encore deux mondes. En tout il y a quatre mondes. Quatre niveaux dans la création. Alavoteno, alenu valbaneno, sur nos pères, nous et nos enfants. Veal doroteno, veal kol dorot, sur nous, nos générations et sur toutes les générations. Zera Israël abadecha, la descendante d'Israël, tes serviteurs. Ala rishonim, veal aharonim, pour les anciens, les anciennes générations et ces dernières générations. Davar, tove kayam behemet, ou behemona, hag velo yavor. Ici aussi on dit le mot emet. Alors c'est ce qui est marqué ici. Pour les anciennes générations et pour les dernières générations, c'est une chose bonne, durable, fixe, qui ne sera jamais changée. Parce que toutes les âmes d'Israël ont leurs racines dans les pères. Bleavot HaKedoshim, ils contiennent toutes les Neshamot d'Israël. Et dans la génération qui a reçu la Torah, nous sommes tous liés. De même qu'elles sont présentes quand Moshe, Parashat, Nitzavim, à la fin des 40 ans, il dit, vous êtes tous debout là. Ceux qui êtes là et ceux qui n'êtes pas là. Après, on dit, Emet. Encore une fois, Emet. Shata, ou Hashem, Elokeinu, Veloke, Abotenu, Malkeinu, Melech, Abotenu. Tu es notre Dieu, le Dieu de nos pères. Notre roi, le roi de nos pères. Notre sauveur, le sauveur de nos pères. Notre refuge, notre créateur. Le créateur de notre délivrance. Podenu Matsilenu. Qui nous rachète, qui nous délivre. Ici, il y a Podenu Matsilenu. Il y a le Shem Pevav. Elohim Zulatra. Podenu Matsilenu. Donc ça a valeur numérique P. Les deux rachetés votre Podenu Matsilenu. Pevav, ça fait 86. Valeur, ça correspond à Elohim. Me'olam ou Shemecha. Donc les trois lettres ici, Me'olam Mem, ou, c'est un He. Shemecha Shin fait allusion à un nom saint qui s'écrit même He Shin. C'est un des 72 noms, c'est le cinquième des 72 noms que nous avons mentionné plus haut. Venano od Elohim Zolatra, c'est là, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. C'est là pour, de manière éternelle établie. C'est vrai que tu es notre Dieu, c'est l'attention particulière pour le peuple d'Israël, c'est l'Ashgaha Pratit. Nous nous inscrivons dans la continuité de nos pères. Notre roi est le roi de nos pères. C'est dans cette intention et à cette condition, encore une fois, qu'il nous a donné la Torah et qu'il nous a délivré d'Égypte. Notre sauveur, ça veut dire qu'il nous sauve de manière continuelle, il nous préserve de toutes les autres pressions. C'est pas ce qu'il aurait pu nous arriver. Et on est là. Et Baruch Hashem, Akash Baruch Hu, il est Magen Ishenu. Il a sauvé nos ancêtres d'Égypte. Et il leur a fait traverser les différents exils. Égyptiens, Babyloniens, Perses et Grecs, etc. On fait précéder notre sauveur, le sauveur de nos pères. Cette prise de conscience est prioritaire. Nous, on doit prendre conscience que là, on est, à Kadosh Baruch Hu, il nous préserve. Et si on prend conscience qu'aujourd'hui il nous préserve, alors on comprend qu'il a préservé aussi nos ancêtres. Il n'est pas dit, créateur et rocher de nos pères. Il est marqué, Tsurenu, Tsur Ishenu. Ici, il dit pas le Tsur de Avot. Ici, nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur les générations précédentes. Nous voyons et constatons notre salut au quotidien. Qui nous délivre et qui nous sauve. Podenu Matsilenu. Le mot podé, ça veut dire délivrer, ça signifie racheter. Il nous délivre en contrepartie de certaines de nos souffrances en ce monde. Ce mot a aussi le sens de rendre ce qu'on a racheté, tout ce qu'on a en rachète, on le remet à sa place. Concernant, il s'agit uniquement du service d'Hachem, et non pas du service des nations. Le verbe sauver, matzil, a le sens de sauver avec puissance, avec une main forte qui s'abat sur les oppresseurs. Me'olam ushemecha, venano od Elohim zulatra sela. Ton nom, Yotke Vavke, c'est lui qui dirige la création, qui l'amène à son but final en la faisant progresser. Bien que cette direction du monde ne soit pas toujours visible, elle se voile dans la tribu, dans ce monde. Olam, ça veut dire Elam, il est quoi? C'est Elohim qui détient les pouvoirs de la direction naturelle. Or, les lois de la nature ne s'appliquent pas à ceux qui déclarent qu'il n'y a que ton nom. En od milevado. Comme dit le verset, ve'adata ve'ashevota elevavecha, ki adonai hu Elohim en od milevado. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, comme le dit Nefesh HaHaim dans au Sha'ar Gimel au chapitre 12. Que si celui qui a une confiance absolue et qui proclame et qui médite sur cette formule, alors rien, aucune loi, aucune règle naturelle n'a d'action sur lui. Nous avons conclu ici le premier paragraphe du Emet Ve'atsif. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.